Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous poursuivons l'étude de la vertu de tempérance. J'aurai quelques précisions à vous donner en suivant saint Thomas d'Aquin, mais je préfère, étant donné le carême qui commence dans quelques jours, aller directement aux différentes vertus qui composent la tempérance, et notamment l'abstinence et le jeûne. Après ça, nous verrons la chasteté, la continence. Saint Thomas nous dit que la tempérance porte en tout premier sur ce vers le quoi nous sommes le plus tentés, enfin le plus portés, et nous sommes portés, dit-il, en tout premier vers ce qui permet la conservation de l'individu, donc la nourriture, et ce qui permet la conservation de l'espèce, donc la transmission de la vie. Il y a chez l'homme une très forte tendance dans ces deux directions, parce que c'est naturel de se protéger le visage quand on est attaqué, c'est naturel donc de manger pour vivre, c'est naturel de propager l'espèce humaine. Vous allez me dire, mais propager l'espèce humaine suppose malgré tout une certaine réflexion. Non, il y a un instinct qui a été donné par Dieu, alors un instinct qui est un instinct gouverné par la raison, d'où l'importance de la vertu. Mais il y a chez nous, du fait que nous ne sommes pas des anges, une tendance naturelle mise par Dieu, que nous avons à régler par la raison, mais qui reste une tendance naturelle. Et les tendances les plus fortes sont celles qui ont le plus besoin d'être dirigé par la vertu. Et les deux tendances les plus fortes, je vous l'ai dit, ce sont les deux choses qui importent le plus à l'homme, sa propre conservation et la conservation de l'espèce humaine. Et pour vous montrer que la conservation de l'espèce humaine est tout à fait naturelle, un père, une mère exposent leur vie pour protéger leurs enfants. Parce que, à travers les enfants, ils se survivent, ils transmettent quelque chose. Et cela, c'est naturel à l'homme. Et c'est la différence avec les animaux. Les animaux ont un pur instinct, mais l'homme a, j'allais dire, un instinct spirituel qui est de transmettre. C'est naturel de se survivre dans ses descendants. Et donc, les deux principales espèces de tempérance vont être le jeûne et l'abstinence par rapport à la nourriture et la chasteté, la continence par rapport à la transmission de la vie. Un tout petit peu de vocabulaire. Saint Thomas d'Aquin appelle abstinence le fait de s'abstenir de nourriture. Le langage moderne, notamment dans le code de droit canonique, réserve le mot d'abstinence à s'abstenir de la viande et des produits carnés, enfin la sauce de viande surtout. Et puis le jeûne, s'abstenir de nourriture. Donc, soyons clairs, l'abstinence, pas de viande, le jeûne, se priver de nourriture. Le jeûne a trois buts, dit saint Thomas. Le premier, réprimer les convoitises de la chair. Et par conséquent, la chasteté est préservée par le jeûne. Et ça, c'est très important. La chair a une tendance au débordement. Et Saint Ignace fait remarquer que se ramener à une juste mesure dans la nourriture n'est pas du jeûne. C'est l'exercice de la droite raison. C'est la sobriété, la vertu qui consiste à, j'aurais peut-être dû être plus clair là-dessus, vous avez dans la vertu un premier acte qui consiste à déterminer la droite mesure, et vous avez en plus le jeûne pour corriger un défaut, un problème enraciné. Je ne vous parle pas de la droite mesure, je vous parle du jeûne aujourd'hui. Le jeûne a trois buts, je vous le disais, donc premièrement, réprimer les convoitises de la chair. Parce que Saint Paul nous dit, et nous le constatons nous-mêmes quotidiennement, hélas, la chair milite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. En sorte que si je ne fais pas attention, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et donc, nous devons faire attention et nous dominer pour ne pas être entraînés justement à faire le mal que nous ne voulons pas et à omettre le bien que nous voudrions faire. Le deuxième motif du jeûne, c'est de libérer l'esprit pour que celui-ci s'élève plus librement à la contemplation des réalités les plus hautes. Et saint Thomas continue, c'est pourquoi il est dit au livre de Daniel qu'après un jeûne de 3 semaines, Daniel reçut une révélation de Dieu. Nous verrons la même chose par rapport à la chasteté. Elle a pour but, notamment, de libérer l'esprit pour la contemplation. Saint Paul le dit dans la première aux Corinthiens. Et tous les médecins, tous les physiologistes vous disent, la nourriture alourdit. C'est nécessaire dans une certaine mesure, évidemment, pour conserver la vie. Mais la nourriture alourdit, et donc il est nécessaire de s'alléger. Et le jeûne permet la contemplation. Voilà pourquoi on jeûne pendant le carême, parce qu'on monte vers Pâques. Le but du jeûne du carême, c'est quelque chose de très élevé. Nous allons au pied de la croix. La croix est un mystère très élevé, non seulement un mystère qui nous trouble, parce qu'il semble ne pas, il ne va pas dans le sens naturel de notre pauvre nature humaine, mais en même temps un mystère très élevé, parce que c'est le mystère du Fils de Dieu qui s'offre pour nous, qui s'offre à son Père en sacrifice d'action de grâce, de louange et en même temps d'expiation pour nous. C'est un mystère très élevé, et on voit que les princes des prêtres, les pharisiens, qui sont des hommes charnels dans l'Évangile, n'arrivent pas à entrer dans le mystère, parce qu'ils ont d'autres préoccupations qui sont des préoccupations charnelles. Et nous devons nous sortir de ces préoccupations charnelles, justement, pour avoir des préoccupations spirituelles. Et le jeûne du carême est très important pour cela. Ce qui fait que si le jeûne du carême n'est pas fait, le mystère de la croix n'est pas compris. Et ça devient un cercle vicieux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les modernistes ont supprimé le jeûne, quasiment, on peut dire quasiment. Et en même temps, ils ont complètement adultéré le sacrifice de la messe. Quant au sacrifice de la croix, ils ont fait une espèce de mystère pascal qui est tout sauf le sacrifice de la croix. Si je vous dis cela, c'est pour vous encourager, mes bien chers frères, à faire un vrai carême. Le troisième motif du jeûne, c'est de satisfaire pour les péchés. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les pleurs, les cris de deuil, dit le Saint-Esprit au livre de Joël. Satisfaire pour le péché, c'est un acte de la vertu de pénitence. C'est-à-dire que le jeûne va avoir à ce moment-là une double perfection, à la fois une perfection par rapport à la tempérance et en même temps par rapport à la pénitence. La pénitence qui est liée à la justice, donc c'est très élevé. Le jeûne est un des trois actes de pénitence principaux. En effet, la pénitence de l'esprit se fait par l'humilité et donc la prière. La pénitence du corps se fait par le jeûne. Et la pénitence dans les biens extérieurs se fait par l'aumône. Ici, nous parlons du jeûne. Mais il est évident que dans le carême, il suffit de lire les textes de la messe chaque jour du carême, l'Église nous recommande les trois pénitences, le jeûne, la prière et l'aumône. Parce que le jeûne est ce qui mate principalement la chair, la prière est le plus parfait acte d'humilité parce qu'elle nous soumet à Dieu. C'est pas le fait que la prière soit longue, qu'elle soit pénible, qu'il faut se mettre à genoux. Ça, c'est pas ça qui est une pénitence. Et ce qui est une pénitence, et ce qui est une remise en ordre, c'est que nous nous soumettions à Dieu. Et puis l'aumône, qui remet de l'ordre et qui répare, qui fait pas que remettre de l'ordre, mais qui répare un attachement désordonné au bien matériel. C'est pourquoi saint Augustin dit dans l'un de ses sermons, le jeûne purifie l'âme, il élève l'esprit, il soumet la chair à l'esprit, il rend le cœur contrit et humilié, il disperse les nuées de la convoitise, c'est-à-dire les nuages de la convoitise qui nous aveuglent, il éteint l'ardeur des passions, il rend vraiment brillante la lumière de la chasteté. Cela montre bien, dit saint Thomas, que le jeûne est un acte de vertu. Le jeûne est une tradition dans l'Église. Les premiers moines jeûnaient, on peut dire quasiment constamment, et ils jeûnaient très fortement. Ce jeûne n'est pas à la portée de tout le monde, et l'Église a loué saint Benoît, le père des moines, dans sa règle, d'avoir institué un jeûne très équilibré. Saint Grégoire le Grand a loué saint Benoît pour son équilibre. Le jeûne de saint Benoît commence le 14 septembre et se termine à Pâques. Jeûne tous les jours. Dans le temps pascal, il n'y a plus de jeûne. Et puis, saint Benoît reprend ou fait reprendre le jeûne à ses moines deux fois par semaine, de la fin du temps pascal jusqu'au 14 septembre. Il fait des exceptions, il laisse libre le père abbé de faire des exceptions pendant les périodes de moisson, si le travail a été trop abondant et surtout la chaleur trop forte. Le saint Jean Chrysostome, qui était évêque, alors pour comprendre l'importance de cela, vous voyez, un évêque cherche le bien de son peuple. Imaginez Monseigneur Lefebvre, qui est préoccupé du bien de son peuple. Que vais-je leur dire? Que vais-je leur conseiller? Saint Jean Chrysostome a écrit un traité d'éducation que je vous recommande, qui s'appelle « La vaine gloire et l'éducation des enfants », dans lequel il dit qu'un père de famille raisonnable devrait faire jeûner son fils deux fois par semaine dès que celui-ci entre dans l'adolescence. Un père de famille raisonnable. Pourquoi ? Parce que dès qu'on entre dans l'adolescence, les passions s'éveillent, évidemment. Et alors vous avez notamment la chair qui doit être matée, notamment par rapport à la chasteté, et j'y viendrai, j'aurais voulu vous en parler avant, mais à cause du carême, je vous en parlerai plus tard. Il y a une analogie entre la puérilité, l'infantilité et l'intempérance. Et donc, c'est très tôt qu'on doit faire pratiquer la tempérance, de même qu'on éduque l'enfant. Saint Pidis, dans son code de droit canonique, publié en 1917, prévoit 52 ou 53 jours de jeûne par an, c'est-à-dire les 40 jours du carême, les quatre temps de décembre, ceux du carême sont déjà comptés dans les 40 jours, les quatre temps de Pentecôte, alors qu'ils sont en plein milieu de l'octave de la Pentecôte, il y a trois jours de jeûne, et puis les quatre temps de septembre, ça fait 9 jours, on arrive à 49, et puis vous avez trois ou quatre vigiles. On arrive comme ça à 52 ou 53, je ne me rappelle plus. Et Mgr Lefebvre, dans ses ordonnances qui sont des consignes qu'il a données pour la fraternité Saint-Pédis, il me semble que je vous en ai déjà parlé de tout cela, mais ça fait rien, j'y reviens à sa place logique. Dans les ordonnances, Mgr Lefebvre nous demande, à nous les prêtres, de recommander le jeûne du carême, tout le carême. Il est évident qu'il ne va pas l'imposer, c'est plus possible. Mais il nous demande de le recommander. Et une des premières choses qui a été faite par le nouveau supérieur général juste après la mort de Mgr Lefebvre a été de chercher à mettre les ordonnances de Mgr Lefebvre à la poubelle. Quand je dis à la poubelle, c'était à la poubelle. Bon, j'étais là pour les défendre, c'est moi qui les ai sauvés. Mais je n'ai pas sauvé les premières pages, notamment sur le jeûne. Je ne me suis peut-être pas assez battu. Je pense que je ne me suis pas assez battu. Il y avait tellement de choses à défendre. J'ai essayé de sauver le reste. Et puis, le jeûne est passé à la trappe. En quoi consiste le jeûne ? Un repas par jour. Chez les moines, ce repas est retardé à 3 heures de l'après-midi. Et pendant le carême, chez les moines, il est retardé à 5 heures de l'après-midi. L'Église a toléré un petit quelque chose le matin, un tout petit quelque chose le matin, et puis un petit gros quelque chose le soir. Avec un seul repas vrai, et puis, comme je vous l'ai dit, de petits tempéraments, de petits adoucissements. Si vous n'avez jamais pratiqué le jeûne, vous pourriez avoir peur de vous lancer directement dans un jeûne de tout le carême, et commencer par jeûner deux ou trois jours dans le carême, par exemple. Encore qu'un jeûner un jour sur deux est plus difficile que de jeûner tous les jours. Parce qu'on réveille la nature, qui réclame de la nourriture, puis après ça on lui interdit, puis quand elle commence à se calmer, on lui ordonne, alors elle ne sait plus où elle en est. Et encore une fois, ne négligez pas le jeûne pour les jeunes. Saint Thomas d'Aquin dit que les jeunes sont en période de croissance. C'est pourquoi l'Église ne les soumet aux jeunes qu'à partir de 21 ans. Encore que Saint Jean Chrysostome disait deux fois par semaine. Et puis Saint Benoît, dans sa règle, ne fait pas d'exception pour les jeunes. Tout le monde est au jeûne et puis voilà. Et l'expérience montre qu'on peut très bien nourrir les jeunes tout en les faisant jeûner. Une petite remarque. Il y a deux problèmes par rapport au jeûne. l'un qui est l'excès et l'autre qui est le défaut. L'excès dans le jeûne s'appelle l'insensibilité, saint Thomas en parle, c'est-à-dire mépriser les conditions nécessaires à la vie. Ce défaut est toujours mis en avant, notamment par les libéraux, par les mondains, qui nous disent toujours « faites attention à ne pas trop jeûner, soyez prudents, n'en faites pas trop ». C'est un vice qui pourtant est rarissime. Pourquoi il est rarissime ? Parce qu'il va contre la tendance naturelle. Par contre, les libéraux et tous les mondains n'insistent pas sur le vice opposé qui lui est très fréquent, à savoir le défaut de jeûne, et qui est très fréquent parce que lui suit la pente naturelle de la nature qui aime manger. Alors on nous fait peur avec un vice qui est très théorique et qui arrive de façon très rare, et du coup, on nous fait tomber dans un vice qui, lui, est beaucoup plus fréquent et grave, lui aussi, à savoir pratiquement on ne jeûne plus. Alors on va dire que les tempéraments ont été amollis, je l'ai entendu cela, notamment depuis les guerres, j'en suis pas du tout sûr. J'en suis pas du tout sûr parce qu'on voit au contraire une grande capacité à s'adapter aux efforts nécessaires quand il le faut. D'abord, à la Seconde Guerre mondiale, il a quand même fallu restreindre la nourriture, et tempérament moderne ou pas tempérament moderne, les Français ont quand même, et les Allemands encore plus d'ailleurs, ont quand même jeûné. Et deuxièmement, parce que justement, c'est comme ça qu'on a avili les tempéraments, on les affaiblit. On part du principe qu'on ne peut pas, puis on ne fait plus rien. Alors évidemment, on a affaire à des gens faibles. Je vous en parlerai, parce qu'il y a toute une question d'éducation là-dedans. Je termine par une dernière question de saint Thomas. Le jeûne est-il de précepte ? Oui, nous le savons, mais pourquoi est-il de précepte ? Il appartient aux prélats ecclésiastiques de prescrire par des décrets ce qui regarde le bien commun des fidèles dans le domaine spirituel. Ce qui est important, c'est que le jeûne enrichit le bien commun de tous les fidèles. C'est ça qui est important. Et c'est pourquoi toute l'Église jeûne en même temps, ensemble. Chacun est tenu par la raison naturelle de pratiquer le jeûne, dans la mesure où cela lui est nécessaire pour obtenir les trois résultats que nous avons énumérés. C'est la raison, il n'y a pas besoin de loi pour ça. Mais l'Église a fait un précepte et elle a déterminé ce qui était nécessaire d'une façon générale, de manière à éviter que nous nous laissions aller. Voilà ce qu'il en est. Notre Seigneur Jésus-Christ a jeûné 40 jours dans le désert. Saint François d'Assise a jeûné 40 jours également, mais au mois de septembre. Il a pris un pain ou un demi-pain par humilité, pour ne pas... Lui, c'est un jeûne intégral, il n'a rien mangé. Mais un demi-pain pour ne pas prétendre qu'il avait fait comme notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est vraiment ce désir de générosité envers le bon Dieu. Que le bon Dieu vous aide. Je vous souhaite à tous un bon et très saint carême pour nous vous donner rendez-vous à Pâques au pied de la sainte colline de la Croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.